Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche à vous. Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui 8 Molongo Kalonda Bampeta. Il est professeur d'université, homme des lettres, mais aussi homme politique. Il est président du parti politique Conscience Républicaine pour la démocratie et le développement. Il est également directeur de cabinet du gouverneur de la province du Katanga. Professeur 8 Molongo, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans ce studio de Radio Kapi.
Merci bien.
Alors avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre parcours professionnel mais aussi politique. Vous nous direz qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la politique, très actif dans la société civile du Katanga, ce qui vous a valu votre participation à la conférence nationale souveraine. Là aussi vous étiez très actif, vous avez été membre de l'Union sacrée de l'opposition. Vous allez nous en parler dans cette émission, mais avant d'en arriver, faisons un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Je suis né ici, je dirais plus exactement à Elisabethville.
Aujourd'hui, Lubumbashi.
Lubumbashi, c'est pour montrer que c'est pas d'aujourd'hui. Plus précisément, de la commune, l'actuelle Kamalondo, commune Albert.
En quelle année, professeur?
En 1955.
Et c'est à Elisabethville où vous avez passé toute votre enfance, où vous avez étudié?
Non, j'ai un parcours scolaire bizarre, mais c'est ce côté bizarre qui m'a beaucoup enrichi, parce que j'ai commencé ici, l'école méthodiste, nous appelions ça Chipiringa à l'époque, parce que je suis d'une famille protestante méthodiste. Voilà qu'en 57-58, je crois, lorsque le Belge prépare l'indépendance pour remplacer l'administrateur du territoire de Malembankoulou, on choisit les Belges, l'autorité coloniale choisit mon père, qui était parmi les premiers évolués, comme on disait ici, et va le choisir pour aller s'occuper du territoire de Malemba comme premier administrateur du territoire. Et j'ai quoi, moi, à peu près 3 ans.
Donc là, vous êtes obligé de quitter Lubumbashi.
Ben, voilà, vous l'avez compris. Je ne peux donc pas rester à Lubumbashi. Je pars avec ma mère. Et ça fait que je commencerai mes premiers pas scolaires à Malemba, dans une école catholique. Mais ma sœur est née. À l'époque, on s'est mariés très tôt. Elle n'avait pas, je crois, 17 ans. Elle était déjà mariée avec ses enfants. Elle a pensé qu'il fallait que je rentre à Lubumbashi, être avec elle et étudier dans la civilisation, entre mille guillemets. Est-ce que vous comprenez la petite nuance?
Mais professeur, vous m'avez dit que vous êtes issu d'une famille protestante, mais quand vous êtes allé à Malembankoulou, on vous a inscrit dans une école catholique.
Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'éducation que nous avions reçue de notre père. Quand je vois aujourd'hui des foyers qui se disloquent parce que la femme est de telle église, on dit Kunanzambe Azalarate, et puis le mari ailleurs. Et mon père nous a, principalement moi, il m'a formé de sorte à ne pas faire trop ces distinctions-là. Donc, par moments, quand il n'avait pas beaucoup de sens, parce que l'église protestante était très loin, vers le fleuve, quand il n'avait pas beaucoup de sens, il nous amenait, les dimanches, il nous amenait seulement chez le catholique. Et on priait là-bas.
Okay.
Et j'ai grandi avec cet esprit où j'estime que Dieu est au-dessus de tous et il est pour tous. Maintenant, les systèmes de pensée de Dieu peuvent être différents, c'est pas ça le grand problème. Donc, je vais commencer l'étude là-bas, ma sœur va me réclamer ici. Donc, pendant un moment, ma sœur et ma mère vont m'utiliser un peu comme la petite balle de ping-pong, voyez-vous. Donc 2 ans à Lubumbashi, un an
à Malembankoulou.
Comme j'avais un caractère pas toujours terrible, je faisais un an avec ma soeur, après on ne s'entendait pas, je criais à ma mère, et puis ma mère là-bas, vous les dames, vous savez votre cœur de mère, il envoie le message, Mouniroudichi,
donc ramenez-moi mon fils.
Ramenez-moi mon fils, tout ça, si vous êtes fatigué de lui, vous me ramenez.
Je prends soin de lui, je suis là.
Et ma soeur était succédée chez vous, ok, prenez-le, un enfant impoli comme ça, on me ramenait là-bas.
Vous étiez turbulent?
On peut dire ça comme ça, enfin, je sais pas, je crois que c'est plutôt, j'étais un indépendant, c'est ce que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc l'école primaire va se gérer comme ça, finalement je terminerai quand même ici, à l'école méthodiste.
Vous avez continué à Lubumbashi?
Non, je monte à Kinshasa, parce qu'à ce moment-là, mon grand frère, Freddy Molongo, qui était le premier ingénieur électronicien congolais, venait de rentrer, il était à la présidence. Il m'avait laissé petit, je crois 2 ans. Quand il revient, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'il est devenu ce petit-là. On lui dit, non, il est à Lubumbashi, mais il ne s'entend pas avec sa sœur. Alors, il envoie un avion, parce qu'à ce moment-là, il avait, à la présidence, il avait fait créer la société Sodema, c'était la société qui s'occupait de l'aviation formation militaire. Quand vous êtes à Kim, si vous voyez bien, il y a le côté civil, mais il y a un coin où il y a un côté militaire des avions. C'était la fameuse société Sodemas. Alors, il va envoyer un de mes autres frères qui vient avec un vol. Et on me prend, on me ramène là-bas. Et donc, je vais commencer maintenant mes humanités à Kinshasa. Donc, je suis un petit Kinois quelque part.
À Kinshasa, vous commencez des humanités. Qu'est-ce que vous avez fait comme études?
À Kinshasa, je commence d'abord par Kalina. Je suis un ancien de Kalina, ce que vous appelez, qui a été appelé Iligo à un moment donné, mais je crois que c'est revenu encore à l'Athénée de la Gombe. Je commence là-bas, mais je vais terminer les CO à l'Institut Lumumba. C'est le Lumumba que vous voyez à l'imité là. C'est nous qui l'avons commencé parce que c'était privé. Il va se passer une chose bizarre. Donc, à l'Athénée Kalina, quand vous avez terminé la deuxième CO, pour entrer aux humanités de l'Athénée, vous devriez encore passer
un autre test.
Même école, mais vous passez encore un autre test. Ce que j'ai fait, mais j'étais un petit Katangais qui ne connaissait pas la culture kinoise de la débrouillardise, vous voyez. J'ai passé le test et j'avais 50 quelque chose. Mon frère qui devait m'inscrire maintenant pour me faire passer ce test, il a failli mourir. Il fait une crise, on l'amène aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il était donné pour mort, mais quand il arrive là-bas, on le réveille et tout. Pendant ce temps, moi, je suis en train de chemin à la maison parce que j'étais pas, vous voyez, les Kinois, oui. Ils quittent une ville pour aller s'inscrire ailleurs. Oui. Moi, j'étais là, discipliné et tout.
Vous attendez que votre frère fasse tout.
Et quand il se réveille, sa première réaction, c'est il est où? On me cherche, et puis il dit, mais il s'est pas inscrit et tout. Et puis, il me fait venir à l'hôpital. Il me dit, de toute façon, tu peux pas faire la troisième. Avec tes 54 que tu as fait là, tu fais pas la quatrième.
Tu reprends la deuxième.
Il avait aboutiqué ça avec un de ses amis qui était le préfet de l'école de Lumumba quand c'était encore privé. Donc, je vais me plier avec la discipline qu'on avait. Je me plie, je refais la deuxième. C'est haut, donc, à Lumumba. Et alors, je partirai de là. L'année qui suit, l'État congolais a officialisé cet institut qui devient un Athénée. Et je ferai mon parcours littéraire. Donc, je ferai la section littéraire à Lumumba jusqu'à avoir
mon
diplôme.
Vous obtenez votre diplôme d'état en littéraire. C'est chez votre part, vous n'étiez pas très indépendant comme chez votre sœur. Hein. Vous aviez peur de lui.
Non, je l'étais quand même, mais je bénéficiais du fait que mon frère m'aimait beaucoup. Il y avait un autre frère aussi qui a pris le relais, il m'aimait beaucoup. Pour certains, j'étais capricieux, pour d'autres, c'est la personnalité qui était à moi. Ils m'ont géré comme ça, un matin, un peu de torgnole, un peu d'engueulade, un soir on m'accepte. Mais je construis mon identité comme ça, progressivement.
Professeur Witt Mulongo Witt, c'est vraiment votre prénom, Witt?
C'est cela.
C'est comme 7-8?
C'est Witt parce que je suis le huitième de la famille, parce que ma mère, comme je vous dis avec mon caractère là, quand je ne voulais pas aller à l'école, j'allais pas non plus. Quand j'avais dit j'y vais pas. Et comme j'étais le cadet, c'était le dernier des hommes, parce que après moi il y avait des filles. Alors maman, pour m'exciter à aller à l'école, elle m'insultait. Elle me disait, toi, les huitièmes, là. Tu sais pas que tu es celui qui suit les riches. C'est ça l'essence des Kalonga Vampeta.
Ok.
Mon frère, je vous ai dit, deux frères avaient fini en Europe. Mm-hmm. Il y en avait un qui terminait à Kisangani, qui est le commandant, le service national du Katanga, mm-hmm. Nimbo. Bon, tout le monde était un peu avancé. Moi, j'étais à la traîne. Et maman craignait. Alors, au lieu de me dire seulement, de me raisonner normalement, elle m'insultait. Mais toi, le huitième, là, c'est pas que c'est en langue louba. Il dit, oui, Kalonda Vampeta, tu es celui qui suit les riches. Si tu n'étudies pas, tu seras l'esclave de tes belles sœurs. C'est exactement comme ça la phrase. Et à l'époque de l'authenticité, je formalise. Nous étions tous de moulons quelque chose, je formalise. Et je prends en souvenir de ma mère.
Oui.
Pour que ça me guide comme. C'est un excitant pour que je rate pas ma formation. Donc, moi, le huitième là.
Kalonda Vampeta. Voilà, professeur. Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, père, oui, il faut que je regarde, de combien d'enfants?
Non!
Père de quatre enfants, plus deux enfants, un enfant de mon second mariage, et deux autres enfants que je gère. Donc je suis un grand papa.
Sept, à peu près.
Voilà. Cet enfant.
C'est quoi votre plat préféré?
L'oseille.
Accompagné de quoi? Du foufou?
Foufou, poisson salé ou poisson frit. Là, j'adore.
Et vous êtes allé en Europe pour poursuivre vos études supérieures.
Exact.
En journalisme.
J'ai commencé par les journalistes. C'est-à-dire que dès que j'ai eu mon diplôme d'État, c'est la mauvaise période où l'enseignement commence à péricliter. Les aînés qui nous avaient précédés ont été refusés à l'université. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, quand on vous avait refusé à l'université, c'est pas comme aujourd'hui, où vous allez tenter ailleurs. Là, derrière votre diplôme d'État, on cachetait, on mettait un sceau avec la mention « inapte à poursuivre les études supérieures ».
Alors, et là, on ne vous acceptait pas dans
toutes
les universités.
Vous trimbaliez ça comme un boulet au pied, partout où vous alliez. Même ceux qui tentaient d'aller en Europe, vous donnez un diplôme en Europe où on lit derrière que chez vous, votre État a dit que vous êtes inapte à poursuivre, ben, on ne vous prenait pas.
On ne vous prend pas.
Alors, quand vient mon tour d'avoir le diplôme d'État, j'ai peur, je dis. Parce que l'année antérieure, mon frère qui était encore à Bruxelles était venu, il m'a dit, je te prends, nous partons. Je l'ai pris pour un dingue parce qu'on était très bien à l'époque au Zaïre, à cette période-là, avant 75, on était très bien. J'ai dit, oui, alors laisse-moi d'abord terminer cette année, puis je vous suis. Mais au-dedans de moi, je me disais, mais il est dingue, celui-là. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'Europe? Moi, je suis bien ici. Mais il est parti. Juste l'année qui suivait, la situation économique
s'est dégradée.
L'enseignement, c'est la corruption qui s'est installée, les cotes tribalement distribuées, etc. Donc la situation de l'enseignement, c'est... alors j'ai regretté. Et j'ai commencé à faire mes démarches personnelles. J'ai décidé de quitter le pays et je suis allé. Donc quand j'arrive, je fais d'abord le journalisme à l'école supérieure de journalisme de Saint-Germain-des-Prés. À ma dernière année, je commence aussi la première année de lettres. Donc je commençais à combiner, et voilà, jusqu'à faire les lettres.
Et vous vous en sortiez facilement, combiner le journalisme et les lettres?
Non, c'était pas facile, d'autant plus que déjà à l'époque, la bourse n'était plus donnée à tout le monde. Il y avait une classe des gens, d'ailleurs la bourse on l'a donnée à ce qu'on appelait les bassi à kilo. Donc le ministre, le secrétaire d'État donnaient plutôt les bourses à ces femmes-là, parce que ça leur permettait d'aller à Bruxelles acheter les pagnes hollandais, les histoires et revenir. Et on ne donnait plus de bourse aux étudiants. Et moi, je suis parti seul. Dans un premier temps, c'est mon grand frère qui me soutient. La première année, c'est mon grand frère qui me soutient. La seconde année, j'apprends à faire les Libanga comme tout le monde. Alors vous voyez, quand vous combinez et vous devez en même temps travailler un peu, ce n'était pas à donner. Mais c'était une passion pour moi. D'abord le journalisme, parce que j'étais déjà reporter à la fameuse et historique revue Likembe.
Déjà à Kinshasa.
Et Kake, oui, avec le bande dessinée, oui. Apollo Sakikwata et tout ça. J'arrive un peu en retard à Paris au niveau des inscriptions à l'université, parce que là c'est la grande discipline. Quand on dit on commence à telle date, on termine à telle date, on respecte. Et heureusement il y avait une grande école, parce que là-bas les grandes écoles sont même plus cotées que les universités. Il y avait une grande école qui m'acceptait alors en journalisme. J'ai dit c'est comme si c'était le destin. Et j'ai commencé, mais l'année qui a suivi, disons la troisième année je crois, et j'avais le temps de m'inscrire maintenant en lettres, comme j'avais envie de faire les lettres. Et j'ai commencé, c'était pas facile parce que je vais vous étonner, mais j'ai failli perdre un peu la boule aussi. À un moment donné, ça a disjoncté, ça a vraiment disjoncté. Je commençais à descendre les marches à pieds nus.
Heureusement, c'est parce que vous faisiez trop de choses à la fois.
C'est ça, parce que ce que je faisais, j'avais cours en journalisme jusqu'au tour de 14-15, et mon premier cours en lettres commençait vers 16h, alors il fallait quitter vite, même 20 minutes avant la fin du cours ici, le temps de courir le métro, aller prendre la navette, atterrir à l'université, et rentrer 22h parce que c'était plus le cours du côté du soir. C'était tellement grave que je suis allé voir le médecin parce que là...
On t'a donné quand même un repos.
Oui.
15 ans en Europe, vraiment avec un diplôme en journalisme, un diplôme en lettres.
Un certificat d'études québécoises.
Un certificat des études québécoises.
Un deuil en philosophie.
Oh. C'est beaucoup.
Non, c'est la passion. Vous savez, c'est le contexte. Ici, c'est parce que le contexte ne suit pas. Quand vous regardez nos enfants ici, vous sentez qu'ils ont envie. Ils ont envie d'en découdre avec la formation, avec les savoirs, mais avec quelle structure?
Et lorsque vous êtes venu, vous êtes rentré au pays, vous êtes installé à Kinshasa ou vous êtes revenu au Katanga?
Je suis rentré ici. Vous savez à quel âge je fais ma thèse? 32 ans et demi.
32 ans et demi.
Et donc, quand je reviens ici, on m'accueille très bien. Quand vous atterrissez à la fac, les collègues vous saluaient. Bonjour collègues, tout ça. Dès que vous avancez, vous les entendiez derrière dire, mais il est trop jeune, quand est-ce qu'il a fait sa thèse?
Donc, à 32 ans quand même.
Parce qu'à ce moment-là, c'était une cinquantaine d'années pour faire une thèse. Donc j'atterris ici, c'est d'ailleurs l'université de Lumumba qui m'avait appelé, et puis j'y suis jusqu'aujourd'hui.
Pour donner cours? Oui. À la faculté des lettres.
Oui.
À quel moment vous commencez la politique? Avant de lancer d'abord dans la politique, vous avez travaillé dans la société civile du Katanga.
Non, la société civile est née avec la démocratisation, le fameux discours de Mobutu de la démocratisation. Comme il a convoqué la conférence nationale, cette conférence voulait que toutes les forces vives y participent, notamment la société civile, et c'est la naissance de la société civile. Donc nous avons organisé la société civile, et puis formé une délégation qui allait à Kinshasa, et c'est à partir de Kinshasa que nous allons nous battre pour rendre cette conférence-là d'abord souveraine, et puis nous battre la société civile qui s'est battue pour que l'Union sacrée comprenne qu'au lieu de gesticuler seulement dans la rue, il fallait venir en plénière à la région de la conférence.
Et c'est la société civile, si je le comprends, c'est la société civile qui a convaincu l'Union sacrée à participer à la conférence.
Oui, parce que l'Union sacrée avait toujours les discours du genre Mobutu va tout noyauter, on n'y croit pas, un peu comme on entend maintenant, hein. Au lieu d'aller vous battre, on n'y croit pas, on n'y croit pas, et on a ouvert la conférence seulement avec la société civile et des autres partis pro-Mobutistes et tout ça. L'Union sacrée avait des réticences, et étant donné que nous avions une dynamique qui a marché, nous sommes allés les convaincre. Ils avaient une réunion à Nganda. Nous leur avons dit, mais nous allons aussi nous fatiguer, parce que la machine Mobutu était tellement forte. J'ai dit, mais à cette allure, nous comptons aussi sur vous, vous êtes une grande machine. Mais si vous restez dehors, on va nous écraser. Alors ils nous ont demandé, je me souviens de cette réunion, vous êtes sûr que ça va marcher là-bas? Si vous venez, nous serons forts. Alors ils vont convoquer leur conclave en Nganda, et en Nganda, ils vont décider de nous rejoindre. J'ai encore le souvenir de cette journée où ces cinq géants-là sont entrés dans la salle de banquet, mais c'est historique. Je pense que la
RPG. Alors, vous faites allusion à qui?
Je fais allusion. Ils étaient le vieux Mouakem, le vieux Mouyaka, comme on l'appelait. Il y avait Étienne, il y avait Freddy Kibasa, il y avait Birindwa, qui était le patron de Stop, donc le secrétariat technique de l'opposition. Il y avait l'intello du groupe, Marcel Yaou. Non, attendez, c'était.
Donc, quand ils sont arrivés dans la conférence, ça changeait un peu.
Ils sont entrés dans notre salle, mais des salves d'applaudissements, la presse était là. Et les lendemains, quand ils sont entrés maintenant en plénière, les données ont changé. Parce que la société civile était forte, eux ils étaient forts, et les Mobutistes ont commencé à battre en brèche.
Mais finalement, cette conférence nationale n'avait rien donné.
C'est le discours que nous avions entendu en nous étonnant. Vous parlez aujourd'hui parce que vous n'avez pas su Mobutu c'est qui. Même j'ai entendu, nous tous, nous avions entendu ce discours quand l'Afdel est arrivé. Ces gens ont donné 7 ans à Mobutu. Mais quel Mobutu? Le Mobutu que l'Afdel a trouvé, c'est le Mobutu que nous, on a mis par terre, qu'on a fait fuir de Kinshasa pour aller se percher à Guadon. C'était un discours trop facile. Mais avant qu'on fasse les élections, dans un état où Mobutu n'existait plus, on a fait combien d'années? Nous, c'était les Mobutu où vous toussez, demain on vient, on casse votre maison, on vous attrape. On a fait d'ailleurs, même ce qui a été fait au 1 plus 4 et tout ça, c'est quoi? La constitution, même la constitution d'aujourd'hui. Mais c'est une copie conforme de la copie de la conférence nationale souveraine. L'honnêteté eût voulu qu'on signala quand même aux gens qu'on a pris les résolutions de la conférence nationale souveraine, mais qu'on a réactualisé votre loi. Si aujourd'hui vous pouvez me poser toutes ces questions librement ici, votre loi, c'est la conférence nationale.
C'est grâce à la conférence nationale.
La conférence. Et grâce à celui qui est devant vous, devant votre micro. C'est moi qui ai défendu cette loi-là qu'on a accouchée avec fait Lucien Tchipoupou, un de vos dévanciers. On a souffert, mais je l'ai défendu pendant 2 jours. Dans une salle où on avait déjà commencé à nous voler, les gens de l'opposition, on devenait minoritaire. Mais je fais voter cette loi-là à l'unanimité, votre loi actuelle.
Mais professeur Witt, vous rejoignez l'Union sacrée à quel moment, hein? Après la conférence nationale souveraine?
Nous sommes au Conseil de la République et nous sentons que maintenant, de toute façon, la mission de la société civile était terminée parce que nous avions fini. Maintenant, c'était le Parlement des transitions. Mais le Mobutisme rampant tentait de résister. Je me dis, bon, mais non, on ne peut plus jouer à la fine bouche et tricher un peu avec les réalités. D'un côté, on veut le changement, et de l'autre, on dit, non, moi, je suis de la société civile. Comme ça se passe maintenant, d'ailleurs. Les tricheurs continuent à se multiplier.
À l'époque aussi, c'était pareil, non?
Non, à un moment donné, on a choisi. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on a dit non. Nous, là, on rejoint les armes politiques pour batailler. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rejoint l'Union sacrée. Et après, j'entre carrément dans l'UDPS.
Vous rejoignez l'Union sacrée de l'opposition. Pourquoi?
Déjà, en France, j'ai créé l'Union nationale des étudiants zaïrois en opposition à l'attitude que Mobutu faisait. Je vous ai dit déjà que l'une des raisons qui m'a envoyé en Europe, c'est l'effondrement du système, surtout lorsque ces systèmes touchent les systèmes éducatifs. Et on se sent... Moi, je me définis toujours comme l'un des rescapés de ma génération. Alors, c'était une génération qui s'est engloutie, on ne savait plus étudier, même quand on était à l'université, c'était pas évident. Il fallait avoir l'argent, il fallait être enfant des moines, comme on dit à Kin, et c'était compliqué. Donc, progressivement, à partir d'Europe, déjà, est montée en moi une sorte d'antipathie pour Mobutu. Je reviens, tel que je viens de vous le dire, nous arrivons à la CNS, nous vivons des choses, de la résistance. On nous tape, on ne veut rien changer. Et puis bon, je dis, moi je me mets clairement du côté de ceux qui ont dit non à ce système-là.
Mais après, il y a eu des fissures au sein même de l'Union sacrée, de l'opposition.
C'est normal, vous savez, un combat politique se définit par rapport aux paramètres, par rapport aux objectifs et tout. Vous n'êtes pas dans l'opposition pour en faire une maison de Dieu. Il n'y a que dans la maison de Dieu où vous restez éternellement, où Dieu a promis, etc. Il y a des objectifs. Nous, par exemple, la première fissure, il y en a beaucoup, mais la première fissure, déjà, elle commence avec Étienne. Nous disons à Étienne, attends qu'on te place à la tête. À ce moment-là, tu commences, tu prends, parce qu'il faut dire, l'Union sacrée, c'est tout lui de peste, mais la population ne jurait que par ça. Et Mobutu avait compris qu'il ne pouvait plus faire autrement. Mais on fait un gouvernement, nous le faisons passer, parce que ceux qui dormaient dehors, c'est nous, hein, c'est quand même nous, les petits cocos qui dormaient en dehors et tout ça, on le remet comme premier ministre. Il nous fait un premier coup que vous ne savez pas, vous tous de la presse. Il nous fait un coup. Nous sommes en plénière, très bien, le soir on va à la maison, parce que la conférence, si Monseigneur Bantan, Monseigneur Mosengo, se souviendra de ça. Monseigneur l'appelle et lui dit calme-toi. Nous faisons tout pour que ton gouvernement saute le plus rapidement possible. Mais on a voté en plénière des principes. Ce n'est pas un gouvernement de l'UDPS. Ce n'est pas un gouvernement de l'Union sacrée. C'est un gouvernement de la Conférence nationale souveraine. C'est un gouvernement qui devait appliquer les résolutions de la Conférence nationale souveraine. Alors pour qu'on soit sûr que les membres qui sortiront de ce gouvernement vont appliquer les résolutions de la Conférence nationale souveraine, vous faites votre première mouture, mais vous venez présenter cette mouture-là en plénière du Haut Conseil de la République. Quand vous l'avez présenté, chacun de vos ministres va passer ce que Monseigneur a appelé l'épreuve de feu devant le président de la commission des matières qui concernent son champ d'action. Donc, comme moi, j'ai présidé la commission socioculturelle, donc le ministre à qui on avait donné la culture devait venir à la commission socioculturelle et nous devions l'interroger sur les résolutions que nous avions prises dans les domaines culturels. Par exemple, je vous apprends que s'il y a une avenue qui s'appelle Loi Momakiel aujourd'hui, c'est nous, la commission socioculturelle, qui avions débaptisé ça. En symbolique des Franco, c'était Tombalbaye à l'époque. Vous appelez aujourd'hui le stade Martyr, c'est ma commission qui l'a débaptisé. Mais aujourd'hui, je vous en parle avec une telle aisance. Mais à l'époque, c'était pas amusant. Mobutu, c'était son stade Kamagnola. Vous venez dire ça devient Martyr. Non, ce n'était pas possible. Alors, et on attend qu'il vienne. On savait que le lendemain, on devait recevoir, donc chaque commission devait recevoir ces ministres-là et tout. Vers 19h, nous voyons à l'écran la bande passante. Dans quelques instants, une information très importante de la présidence. Dans quelques instants, une information importante de la présidence. Après, plus rien. On va dormir vers 23h. Le gouvernement, le Tshisekedi 2 est là.
Et ça a étonné tout le monde alors que...
C'est excessivement long, mais je crois que dans d'autres occasions, on peut approfondir. Pas étonné, on était furieux. N'est-ce pas? Mais vous savez ce qui s'était passé? Pendant que nous attendions, lui est allé en scellé. Avec sa mouture, il est allé montrer à Mobutu. Bon, évidemment, on avait dit qu'il faut qu'ils s'entendent, hein, pour que le climat soit bien. Il était monté à Mobutu. Mobutu regarde, il dit non, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez maintenant aller au conseil pour aller présenter. Lui, il rentre, il va dormir. Mobutu, la nuit même, il appelle ses gens, on fait l'ordonnance. Parce qu'il y avait 3 ou 4 cas, pas très bien, des gens qui ne répondaient pas au profil. Mais pour eux, pour Mobutu, c'était une bonne chose pour qu'on ridiculise l'opposition. Alors pendant que lui est allé dormir en disant le lendemain il viendra à la plénière et tout, lui Mobutu la nuit il appelle les Mokolo ici, tout ça, rapidement ordonnance et on nous balance. Bon, bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'à un moment donné on ne pouvait plus parler le même langage, mais vous savez dans toutes
chacun
les associations,
toutes
les associations toujours comme ça. Mais on s'est séparés plus pour nous. Plus ou moins au bon moment, parce que de toute façon, Mouzé venait d'arriver, Mobutu venait de fuir. Donc en fait, c'était plus une querelle maintenant de « et maintenant, c'est quoi ?» Donc ce n'était plus le même type de combat.
Alors professeur, on va souffler un peu, il vous arrive d'écouter la musique.
Oh, j'adore la musique.
Quel genre de musique?
Toutes les musiques. D'abord, en tant que très authentique Congolais, j'adore la musique congolaise, sous toutes ses coutures. Ensuite, j'adore la musique française.
Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment?
Je ne sais pas Si c'est au Congo, si j'ai quelque chose de Papa Wemba, je serai heureux. Si c'est en France, si j'ai Francis Cabrel, je serai heureux. Si j'ai Sardou, je serai heureux.
Bon, on va voir ce qu'on a.
Si j'ai Johnny, je serai heureux.
D'accord, on va voir ce qu'on
a. Si j'ai Mireille Mathieu, je serai heureux. Donc ne vous limitez pas trop, ce que vous avez, pour vous que ce soit du Congo, soit de la France.
Voilà, on va vous faire plaisir. On va demander à la technique de nous balancer une belle chanson de Papa Wemba pour le plaisir de notre invité qui est le professeur Wilton Mulongo, mais aussi pour tous ceux qui aiment la musique de Papa Wemba. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission.
Et se livre à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Go! Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Witt Mulungu. Il est professeur d'université, homme des lettres, mais aussi homme politique. Il est président du parti politique Conscience Républicaine pour la démocratie et le développement. Il est également directeur des cabinets du gouverneur de la province du Katanga. Professeur Witt Mulungu, c'est vous qui avez introduit le concept géopolitique à la Conférence nationale souveraine. Avec quelle idée derrière la tête, professeur?
Non, ça me fait toujours marrer ça. Vous savez que c'est moi qui ai prononcé. Et puis on l'avait très mal interprété. C'est-à-dire que lorsque on commence maintenant à composer les délégations, hein, je vous remercie beaucoup de me poser cette question. Parce que chacun a mangé sa sauce, souvent je me marre. Lorsqu'il fallait composer maintenant les différentes délégations des provinces, chacun tirait les draps de son côté. Chaque province, pour la représentativité, quel nombre. Alors, au niveau de la société civile, on va mettre en avant un critère qui consistait à dire il faut qu'on tienne compte des grandeurs des provinces, du nombre des populations. C'est comme si vous dites les Kassai occidentaux a le même nombre que les Maniema. C'était ça un peu ce type de discours qui s'est posé. Alors donc, géopolitique dans notre bouche, lorsque nous avions parlé, nous avions dit il faut tenir compte de la géopolitique. Mais ça tombe à un vilain moment où certaines personnes qui, elles, avaient d'autres visées, je ne vais pas faire des procès des individus, si c'était un débat d'ensemble, on citerait les gens, avaient d'autres visées avec tout ce que nous avions connu chez nous, je ne vais pas revenir là-dessus.
Ça fait partie de l'histoire, professeur.
Bien sûr, mais on ne l'a pas encore écrit. Mais quand eux vont faire leur conférence, ils utilisent les mêmes mots, mais pour les manger à leur sauce. Moi, en plénière, lorsque j'ai réclamé, c'était pour dire qu'on tienne compte, par exemple, Kisangani était plus grand, enfin, au Zaïre à l'époque, que les Katanga, et qui était plus peuplé et tout ça. Il fallait qu'on tienne compte de ça, la géographie, la politique et la géographie, pour une représentativité ou une représentation tout court.
Et donc, une province qui était assez grande, avec plusieurs...
Devait avoir un peu, c'est ce que nous réclamions, avoir une représentation un peu plus élevée que les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, vous savez, on dit toujours en français, moi j'ai l'habitude de dire que les mots sont très traîtres, vous savez, les mots ils sont très traîtres. Au niveau du destinateur que je suis, je peux le charger d'un contenu sémantique précis, mais au niveau du destinataire, il peut aller dire aussi autre chose. Parce qu'au niveau du destinataire, le destinataire aussi participe, ce qu'on appelle la sociologie de la réception. C'est lui qui reçoit, il reçoit en fonction aussi de ses attentes, de ses besoins. Donc, cette problématique des géopolitiques, voilà l'origine.
Mais par rapport à ça, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont dites, hein, professeur. Moi, je me dis, il y a des gens même qui vous ont traité de tribalistes.
Ah, mais ceux qui m'ont traité de tribalistes me font rire, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, ils font rire même les oiseaux. Parce qu'il n'y a pas plus anti-tribaliste que moi. Je prends l'exemple de... Quand vous dites ça, je sais à quoi vous faites allusion. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé ici. L'accrochage Katango-Kassaïen. Qui a défendu le Kassaïen ici? Faites l'histoire ici qu'on vous cherche. Moi, j'étais même sacrifié ici parce que, un, c'est moi qui suis venu avec une délégation ici. Sous l'égide de Kibasa, du professeur Lunda Bululu et d'un autre aîné qui est mort. Moi, j'ai été à Likasi. Moi, j'ai vu ce qui était parqué à Likasi. Le comité de refoulés, si certains survivants sont là, ils vont se marrer. Ils ont refusé de recevoir cette délégation. Parce que nous étions du côté de ceux qui n'avaient pas accepté ce qui s'est passé ici. C'est là où il faut corriger l'histoire. Parce que quand on met aussi tout le monde dans les sacs, il faut savoir quel est l'intérêt de vouloir mettre tout le monde dans les sacs. C'est pour qu'on perpétue toujours cette problématique de dire les Katangais n'aiment pas les Kassaïens. Non, il faut dire, c'est pas des Katangais qui sont attaqués aux Kassaïens. C'est certains Katangais qui sont attaqués aux Kassaïens. Ça avait tellement fait mal aux gens, ce qui était parqué là-bas à Likasi, que ce comité, lorsqu'on leur a dit une délégation des Katangais qui est venue, des parlementaires Katangais, il a refusé. On a poireauté pendant une heure. Après, on nous a reçus. Vous savez pourquoi on nous a reçus? Eh bien, je le saurai pendant la réunion. J'étais le cadet de tout le monde qui était dans la délégation. Le président de cette commission, c'était un médecin. Quand il prend la parole, il dit, nous savons que vous êtes dans la ville depuis autant de temps, etc. Mais vous savez pourquoi on a décidé de vous recevoir? Tous mes aînés étaient là, comme je dis, non. Et on me pointe. Il dit, c'est quand on a appris que le professeur est dans la délégation. On nous a dit, le prof est là, il dit, si lui est là, nous pouvons parler. Parce que les positions que j'ai, vous êtes journaliste, prenez les archives, les positions que j'ai prises, qui a... Vous savez, Mobutu, c'était une machine. Lorsqu'on a décidé qu'on ferme la Conférence nationale souveraine, avec Jean-Carl Bond, mais Mobutu a mis tous les moyens, ma chère sœur, tous les moyens pour que cette conférence s'arrête. Et le moyen pour que toutes les délégations rentrent. Et la délégation du Katanga en premier parce que elle devait montrer l'exemple. poser la question, qui a dit qu'il ne rentrait pas à l'UMAS?
Moi.
Mais j'étais qui? Un petit Camarim qui venait à peine de rentrer, on venait à peine de l'engager à l'université.
À l'université de l'UMAS.
Oui, je vous donne un exemple. Allez suivre le docteur Moutoke, qui est resté avec moi, parmi les rares qui sont restés avec moi. Allez suivre les directeurs et conseillers aujourd'hui du gouverneur Moïse, Kachina Tchongo. J'ai dit non, mais j'étais un tout petit comme ça, sans un rond, un petit miséreux et tout ça. Mais j'ai dit non, moi je rentre pas. Et j'ai réuni les gens, j'ai dit ceux qui sont prêts à partir, ils partent. Mais tout était organisé, les bus, on amène le bus, on plante devant Bethany là-bas et les gens montent. Avec menace à la clé, vous dites, celui qui rentre pas, il verra ça. Parce qu'à l'époque, on brûle les maisons et tout. Hein. Je suis resté et quand je reste, je constate que quand on balance le groupe qui est rentré ici et celui qui est resté, j'avais la majorité. Peut-être certains d'ici, mais ceux qui m'ont vécu à Kinshasa, ils savent que ce monsieur-là, c'est lui qui a fait en sorte que ces histoires de tribalisme n'existaient pas autour de nous.
Oui, Moulongo, professeur d'université, vous êtes président d'un parti politique, Conscience républicaine pour la démocratie et le développement. C'est un parti politique de la majorité présidentielle.
C'est exact.
Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est cette question sur la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit réviser la constitution actuellement? Est-ce que c'est opportun?
Dans votre question, il y a deux choses. Première chose, est-ce qu'on doit réviser la Constitution? Deuxièmement, actuellement. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut associer pour répondre à votre question. Je commence par
la
par
première.
La fin.
Je commence par la fin. Allez-y.
Par la fin. Actuellement, non. Je crois qu'en commençant par la fin, j'ai répondu même au début. Toute Constitution est revisable, pourvu qu'il y ait opportunité, qu'il y ait sens, qu'il y ait raison. Il y a des raisons pour lesquelles on peut reviser. Mais vous dites maintenant, moi je suis dans la maison majorité, du côté de ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire maintenant. J'espère que vous allez me dire pourquoi. J'anticipe en vous disant qu'il y a des choses qu'il faut savoir préserver. Il y a des acquis qu'il faut savoir préserver. Vous savez, le président Joseph Kabila, on peut ou ne pas l'aimer. De toute façon, en démocratie, chacun a sa position. Il y a X qui vous aime, Y ne vous aime pas. On peut ou ne pas l'aimer. Mais si on fait le bilan des œuvres qu'il a accomplies depuis la mort de son père, mais on verra qu'il y a des œuvres extraordinairement bonnes qu'on doit préserver. Est-ce que le contexte actuel autorise qu'on retouche cet article 220 pendant que c'est en train de claironner partout pour que le président Kabila, qui a fait beaucoup de choses, termine dans l'eau de boudin? Je crois qu'on a atteint un niveau où ceux qui aiment le président Joseph doivent avoir le courage de dire arrêtez de l'amener au mur. Il y a beaucoup de gens qui phosphorent autour de lui. Je crois que il est temps que ces gens-là phosphorent ailleurs. Comment on peut permettre à celui à qui l'histoire doit reconnaître la stabilisation, l'imposition et la stabilisation de la démocratie, comment on peut lui permettre encore de cracher dans sa propre soupe?
Professeur Witt Moulongo, vous avez été candidat malheureux aux législatives de 2011. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que votre collègue Jean Gandou avait reçu même mon coup de téléphone directement du site électoral où moi j'étais devant. Moi, c'est la population qui me prenait pour venir. Witt Moulongo, viens. On a encore caché les bulletins là-bas. Viens, venez voir. Et j'allais, j'interrogeais, c'était filmé. Et alors, on envoie une liste de qui c'est ça. Parce qu'on a décidé que Moulongo, c'est l'homme de Moïse. Si Moulongo passe à Malemba, c'est comme si Moïse les avait insultés. Et voilà, donc on interdit même à mes... On les appelle comme à des témoins. On leur dit clairement, sans vergogne, il dit votre type ne passera pas, c'est une instruction. Et puis vous n'entrerez pas ici.
Mais à Malemba, c'est chez vous quand même, non?
C'est pas seulement chez moi seul, c'est chez nous beaucoup, si on peut dire ça. Mais ceux qui avaient les arènes du pouvoir, les décideurs pour les élections, c'est mes autres frères qui estimaient que moi je péchais en travaillant avec Moïse, hein, c'est moi qui l'entêtais, je ne sais pas en faisant quoi, et que donc...
Oui, on a même demandé au gouverneur de vous suspendre.
Oui, mais sans vergogne, oui, sans vergogne, ça je peux... Vous savez que c'est la première fois que je l'ai dit, hein, depuis je crois 2 ans. On a demandé au gouverneur, il faut l'enlever. Non seulement on l'a demandé, mais en même temps on a passé le message à Malemba, dit vous allez voir votre type là d'ailleurs, on va... Mais je suis étonné que vous parliez de ça maintenant, parce que dans toute la vie de Lubumbashi, on savait que j'étais congédié. Et c'est curieux parce que pendant ce temps, moi j'entrais au gouvernorat, je travaillais, j'ai rentré, j'allais enseigner. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, je jouissais quand même du minimum indispensable de considération de la part de mon patron. Parce que ce qu'ils lui ont demandé, c'est pas le monsieur tout le monde.
Malgré les pressions qu'il a eues, il va quand même garder.
Et ça, vous pouvez venir me dire ce que vous voulez. Pendant que mes propres frères des sangs, des tribus, demandent ta mise à mort, quelqu'un d'ailleurs, il dit, je vais t'enlever pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ça me marque.
Alors en 2016, vous allez vous représenter?
J'y pense, mais ça dépend du congrès de mon parti. Mais j'y pense, ça dépend sous quelle forme.
Vous avez été la première personne à organiser une ville morte au Katanga. C'est à quelle occasion? Pourquoi?
Et je crois que quand on a commencé, vous avez suivi un peu la constitution de mon caractère depuis que je suis petit. Moi, je ne fais que des choses sous ma conviction. Même quand j'appartiens à un groupe, s'il y a des choses qui ne me convainquent pas, je dis que ça ne me convainc pas. Avant de monter ici, je vous ai dit comment j'étais le seul et le premier à dire sur les antennes d'antenne A que les CPP n'allaient pas marcher. La NER est venue récupérer la bande, etc. Et puis ça m'a fait aussi aimer Mouzé. Parce que après audition, on est revenu et dit non, Mouzé a regardé, on m'a dit non, vous n'avez pas critiqué, vous avez dit seulement une certaine vérité. Et donc, à un moment donné, au début de ces, le premier mandat, pendant à peu près 6 mois, on a vécu ici... une insécurité terrible, terrible, c'est des attaques à gauche, à droite, les gens continuaient comme ça. Et bon, nous avons passé des messages dans la famille politique pour dire, il faut faire quelque chose. Sinon, nous ne maîtriserons plus la province. Et d'autant plus que l'opposition tombe sur tout prétexte que ça va. C'est comme ça le combat politique, quand il y a des prétextes et tout ça, rien ne se faisait. Alors je me suis souvenu que je fais partie de ce qu'on appelait les jeunes turcs de l'Union Sacrée. Je me suis souvenu des bonnes méthodes avec lesquelles on a quand même secoué Mobutu. J'ai dit, ces gens, on va les secouer. Alors on a balancé des tracts, il faut les appeler comme ça, des messages sous le modèle révolutionnaire et tout ça. Pour la première fois dans cette ville, jusqu'à 9h30, personne n'avait ouvert le magasin ici. 10h, personne n'avait ouvert le magasin. Il y avait 2 ou 3 téméraires qui ouvraient en regardant par l'œil de bœuf pour voir s'il y avait des gens qui venaient ou pas. Et c'était terrible, je me souviens.
Et après, vous avez eu des problèmes avec les autorités.
Ah oui, oui. D'abord, mon grand frère Kasseba est monté à la télé, il a tonné parce que c'était sous l'égide de mon ancien président provincial. Et puis Kinshasa a appelé. J'oublie jamais ça parce que les Redox, c'était un grand ami, c'était Jules Katumpe, quoi, il m'entend, je le salue par vos ondes, c'était lui le responsable de la sécurité ici, un ami, un collègue d'université, je dirigeais sa thèse, et c'est à lui qu'on demande de m'arrêter. Parce qu'on a dit, c'est parti là, n'est-ce pas, c'est le parti du professeur Moulon, oui, mais comment, il est avec nous, comment il s'est permis de faire ça, il faut l'arrêter. Mon quota de me faire arrêter est déjà terminé. J'en ai tellement reçu pendant la guerre contre Mobutu, que je ne le crains pas. Et je me suis présenté moi-même. Quand j'entre, lui, il est au fond de son bureau. Il est en train de travailler. Il redresse la tête. Il me voit au milieu. Je lui fais un salut militaire pour dire je suis là. Je n'oublierai jamais ça. Il éclate de rire. Lui qui avait mission de m'arrêter, il éclate de rire. Enfin bon, voilà.
Et finalement, vous n'avez pas été arrêté.
Bon, finalement, ça a été dit. Bon, j'étais arrêté, comment je peux dire, intelligemment. Mm-hmm. Ah, il m'a géré, il m'a expliqué ce qui s'est passé à Kin. Son débarras aussi, et il fallait quand même que je lui donne ces gens-là, mes gars qui avaient fait le travail, je le fais comprendre, nous étions tous du même camp. Si nous avions fait ça, c'était pour prendre le devant sur ceux qui pouvaient être récupérés par l'opposition.
On va conclure, professeur, vous êtes directeur d'un centre de recherche à Lubumbashi.
C'est le tram.
C'est le tram.
C'est le centre d'études littéraires et de traitement de manuscrits.
Et qu'est-ce qui se fait concrètement dans ce centre?
2 études critiques sur la littérature, principalement la littérature congolaise, mais aussi la littérature française.
Et le centre existe depuis quand?
Depuis 93, quelque chose comme ça.
C'était un plaisir de vous recevoir, professeur, dans cette émission. Peut-être un petit dernier mot à tous les auditeurs qui nous suivent.
Très heureux d'être devant les auditeurs d'Okapi, et c'est une occasion, moi, de remercier surtout l'équipe d'Okapi, son histoire qui s'est imposée maintenant au Congo et même à l'extérieur.
Merci.
Félicitations et bon courage.
Merci, professeur. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais 8 Mulongo Kalonda Banteta. Il est professeur d'université, homme des lettres, mais aussi homme politique. Merci à Jean Gandou qui nous a aidé à préparer cette émission. La technique était assurée par Pierre Diassinois. Au micro, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.